يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله
comprendre l'islam une émission conçue et présentée par Saïd Bouterfa et Kamel Chekat. Réalisé par Youssef Najimi.
Amis auditeurs, bonjour. Deuxième émission de Comprendre l'islam avec Kamel Chekat. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder un sujet qui est fondamental pour tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle la niyya, donc la pureté d'intention. Donc, Si Kamel, bonjour.
Bonjour.
Alors, une formule qui, je pense, est devenue très usitée chez nos co-religionnaires et qui est à l'origine, je pense, un hadith, c'est « les actes ne valent que par les intentions ». Voilà, quelle est la particularité de ce hadith ?
Alors, ce hadith a été rapporté par Omar ibn al-Khattab et seulement par Omar ibn al-Khattab.
Uniquement. Très bien.
C'est ce qu'on appelle en langue arabe « hadith ou ahad ». C'est-à-dire que c'est un hadith qui n'a été rapporté que par un seul compagnon du prophète. Ce hadith est pratiquement le hadith le plus important que nous ayons, puisqu'il va englober pratiquement 70 chapitres du droit musulman. Mm-hmm. Il comprend aussi pratiquement le tiers du savoir des musulmans. Le tiers du savoir de ce que devrait connaître un musulman de l'islam est compris dans ce hadith.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une somme en lui-même ?
Oui, c'est la base pratiquement de tout acte. C'est pour ça que les ouvrages de référence chez les musulmans commencent tous par ce hadith. Mm-hmm. C'est le cas, par exemple, de Sahih al-Bukhari.
Donc, les actes ne valent que par les intentions. Et là, par rapport à ce hadith, quelle est plus précisément sa substance, si quand même ?
Le hadith nous est rapporté par Bukhari et Muslim d'après Omar ibn al-Khattab et des mu'minin qui a dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » J'ai entendu le messager de Dieu et c'est là que le hadith fait foi. Parce que Omar ibn al-Khattab, quand il a prononcé ce hadith, il l'a prononcé devant au minimum des dizaines de personnes et c'est à partir de Omar ibn al-Khattab que les transmetteurs l'ont transmis centaine après centaine. Mm-hmm. Donc, les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui dont l'exil a été fait dans l'intention de plaire à Dieu et à son prophète, son exil est pour Dieu et son prophète. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est pour la raison qu'il y a poussé.
Donc, pour résumer, Si Kamel, chacun est rétribué selon ses intentions.
Absolument. Voilà. Et c'est ce qui donne à l'intention ce caractère, je dirais, grave, parce que là, vous êtes en relation directe avec Dieu et il n'y a pas du tout lieu de tricher ou de jouer avec Dieu. Parce que Dieu, justement, parmi ses attributs, est qu'il est parfaitement au courant de l'intention de l'individu.
Alors là, c'est Kamel, il y a aussi une question qui m'interpelle fortement par rapport à ce que nous vivons actuellement, par rapport à toute cette tradition de la niyya et de la pureté de l'intention. C'est que même, j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de dérive sémantique où beaucoup de gens, j'ai l'intention de faire telle chose ou telle autre chose en pensant uniquement à l'acte, mais on occulte un peu la dimension de la niyya, de la pureté de l'acte en lui-même, qui normalement va de pair avec aussi bien l'acte, mais l'intention, comme on dit, qui réside à l'intérieur de l'être.
Il ne s'agit pas uniquement d'intention d'agir, mais aussi de sincérité. Essayons d'étudier le hadith, de le placer dans son contexte. Tout comme nous avons pour certains versets coraniques des raisons de révélation, asbabun nuzul, nous avons dans la tradition du prophète ce que les savants appellent asbabu wurud il hadith, les raisons qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prononcer telle ou telle sentence. Alors pour ce hadith, juste après l'exil de la Mecque, il y a un homme qui ne s'est pas exilé avec les musulmans pour plaire à Dieu Il l'a fait parce qu'il voulait épouser une femme qui s'appelait Umm Qais.
Voilà, c'est pour les biens de ce bas monde.
C'est pour ça que le prophète a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, pour quelques biens de ce monde éphémère, ou pour épouser une femme, ou لِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Cet homme s'est exilé pour épouser une certaine Umm Qais, et à partir de là, on l'a appelé مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسِ. Le prophète, alayhi salatu salam, quand il a cité ce hadith, est monté sur sa chair, i'tal al-mimbar. Donc celui qui a procédé à l'exil pour plaire à Dieu, il va être rétribué selon son intention. Et celui qui l'a fait pour quelques biens matériels ou pour épouser une femme, son exil n'a de rapport qu'avec ce qu'il a eu l'intention de faire ou avec ce qui l'a poussé à s'exiler.
Comme on a dit au début, à chacun selon ses intentions, sous-entendu, la rétribution de l'au-delà.
Ce qui veut dire aussi, que cet homme qui s'est exilé à cause de Umm Qais ne va pas pouvoir jouir du même statut des muhajirines, des exilés, qui ont un grand mérite chez les musulmans.
Donc là, on revient encore une fois à cette disposition particulière. Là, on a souvent tendance à oublier que la niyya, cette disposition du croyant, qui fait partie de sa proximité, de son intimité avec Dieu, fait partie aussi de, si on peut dire, de son corpus d'existence. Il est habité, logiquement, de cette niyya et elle l'accompagne dans tous les actes de sa vie.
C'est pour cela que, comme je le disais tout à l'heure, les savants tels que l'imam Shafi'i disaient que ce hadith était
fondamental.
Était d'une importance capitale, parce que finalement, on ne peut rien faire sans intention. Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes me disent: quel est le statut d'un savant comme, par exemple, Pasteur, qui a inventé un vaccin contre la rage?
Absolument, et qui s'inoculait lui-même expérimental.
Alors on me dit, comment quelqu'un comme Pasteur pourrait-il aller en enfer alors que des sauvages? C'est ce qu'on me dit généralement. Et malheureusement, c'est des Algériens musulmans qui me le disent. Certains me disent, des sauvages comme nous iront au paradis. Eh bien, parce que tout est en rapport avec niyya, avec l'intention. Le petit musulman qui a beaucoup de défauts va faire un certain nombre d'actes, mais qu'il va faire expressément pour plaire à Dieu, et Dieu va le rétribuer en conséquence, alors que Pasteur, il n'a pas demandé la science et il n'a pas diffusé la science pour plaire à Dieu. S'il l'a fait pour sauver un parent et il a réussi,
bon, donc Dieu... l'humanité.
Pour l'humanité. Moins. Mais si beaucoup de savants font ça pour de la notoriété. Et dites-vous bien que Dieu a été un peu plus juste avec la majorité d'entre eux parce qu'ils ont eu la notoriété souhaitée et ils l'ont eu même. Cette notoriété s'est décuplée après leur mort. Donc pourquoi une personne comme Pasteur qui n'est pas musulmane pourrait-elle aller en enfer? On parle conditionnel. Nous ne nous mettons pas à la place de Dieu. Quand une personne meurt en bonne musulmane, nous disons qu'elle va au paradis. Quand elle est en non-conformité avec l'islam, nous disons qu'elle est susceptible d'aller en enfer.
Oui,
mais même là, nous n'avons pas le droit de nous mettre à la place de Dieu, comme ce hadith disait, il y a un homme qui est mort et un autre est venu et a dit « Wallahi lan yaghfir Allahu li fulan » « Par Dieu, Dieu n'absoudra pas un tel ». C'est un hadith qudsi, hadith divin. Et là, Dieu a dit, qui se permet de jurer en mon nom? Lui, je l'ai absous de tous ses péchés. Et à toi, j'ai annulé toute ton œuvre. Donc, si je dis que des gens comme Pasteur qui ne croyaient pas en Dieu, selon les préceptes de l'islam, vont en enfer, ça ne veut pas dire que je me place à la place de Dieu. C'est ce qui devrait se passer normalement.
Oui, c'est à Dieu d'avoir, en dernière instance.
Mais c'est à Dieu de décider de tout ça.
De juger les hommes.
Donc, l'intention va être déterminante, justement, entre ce que fait une personne dont le seul but est de plaire à Dieu et ce que pourrait faire une autre personne, aussi importante soit l'œuvre, mais qui ne le fait pas pour plaire à Dieu.
Bon, là, pour être plus clair, et en langage plus clair, il faut aussi essayer de cibler cette niyya qui est aussi une portée à la fois transcendantale, spirituelle, religieuse. Donc on est carrément dans un corpus religieux. Donc c'est quelque part la niyya et un peu l'intention, c'est le noyau, bon, même au niveau étymologique, ça... ça vient de nous,
Nawa.
Nawat. Donc le noyau de l'acte, son ressort le plus secret.
C'est clair. C'est pour cela que vous avez d'autres sentences du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous disent que Dieu n'accepte d'une œuvre que ce qui a été fait dans l'intention de plaire à Dieu et qui a été fait selon la tradition prophétique. C'est-à-dire que Dieu n'accepte d'une œuvre que ce qui renferme une intention pure avec un acte conforme au droit musulman, conforme à la loi musulmane. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi et de dire « oui, mais moi, mon intention, elle était bonne ». Ibn Taymiyyah, tout comme Ibn Badis, disait « niyatul hasanatu la tubarrirul haram ». La bonne intention ne justifie pas l'illicite. Et c'est pour cela que, par exemple, nous avons actuellement des gens qui vont rendre visite à des tombeaux de saints. Sidi Abdurrahman, par exemple, c'était un grand savant, c'est quelqu'un. Normalement, quand vous allez visiter son tombeau, vous êtes censé prier Dieu pour cet homme.
Oui,
bien sûr.
C'est pas le contraire.
Et non le contraire.
Oui, c'est pas un intercesseur.
Alors que les gens le font passer pour un intercesseur, et quand vous allez leur expliquer que cela est tant de peu plus interdit, c'est carrément de l'associationnisme.
Non, c'est clair, parce que puisqu'il est mort, comme on dit, il n'a plus d'acte.
Même de son vivant, il n'avait pas cette prérogative. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire l'intercesseur, et ça ne se fera que le jour du jugement dernier.
D'autant plus qu'il est mort.
Oui, alors, donc, quand on explique aux gens, quand on leur donne une somme de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un certain nombre de versets qui interdisent carrément la chose, les gens vous diront « Oh, de toute manière, nous n'avons pas le droit d'utiliser les propos du prophète comme bon nous semble. Nous sommes obligés de les placer dans leur contexte et de les utiliser selon ce que voulait ou selon ce qu'entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il les a prononcés. »
Donc, il faut tout simplement se conformer aux lois universelles édictées par la révélation.
Absolument.
Si on peut résumer un peu l'objet de la niya qui doit...
Il est vrai que, par moment, niya elle-même va faire d'un acte qui, peut-être en apparence, est illicite, va transformer cet acte et le rendre licite. Par exemple, nous avons parlé la semaine dernière de Siyam Sabt. Il est interdit de jeûner le samedi, isolément. Mais par exemple, un homme est venu consulter l'imam Shafi'i concernant Siyam Ashura. Et ce jeûne de Ashura coïncidait justement avec un samedi quand l'homme est venu poser la question à Shafi'i. Le Shafi'i lui a dit « Ant tasumu Ashura, ant tasumu Sabt. Que vas-tu jeûner, Ashura ou samedi ?» L'homme a dit « Mais Ashura ». Donc c'est l'intention qui a déterminé la portée de l'acte. Va-t-il devenir licite ou pas? Il aurait dit « j'ai l'intention de jeûner samedi ». L'imam lui aurait dit « tu n'en as pas le droit ». Mais comme c'était Ashura qu'il visait, il devenait de ce fait tout à fait licite de jeûner Ashura. Même en jeûnant un samedi, isolément, sans pour autant jeûner avec lui un jour avant ou un jour après. Et c'est comme ça, l'intention elle-même va avoir une importance incroyable tout au long de votre vie. L'intention va faire en sorte qu'il n'y ait plus de distinction entre le temporel et le séculier, entre le mondain et le religieux. Par exemple, « Inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqina » Dieu veut que quand l'un d'entre vous entreprenne quelques tâches ou fasse quelques travail, qu'il le fasse bien. Nous sommes tenus d'être perfectionnistes. Donc, vous vous levez le matin, vous allez à votre travail. Si vous le faites bien, dans l'intention de plaire à Dieu, eh ben, ce travail, Dieu, il va vous rétribuer en plus du fait que votre employeur vous paye en fin de mois.
Donc la niya est d'être en conformité avec sa conviction profonde, sa religion. Donc c'est vrai que ça implique tous les moments de la vie du croyant.
Absolument. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait à ses compagnons « Wa fi budri ahadikum sadaqa » Même quand l'un d'entre vous entretient une relation intime avec sa femme, ceci lui est compté comme une aumône. Comment cela peut-il être possible au messager de Dieu? Là, on ne fait que satisfaire un plaisir, un instinct tout à fait naturel, et on va être rétribué. Il l'a dit oui. Imaginons que l'homme en question ait fait ça dans un cadre extra-conjugal, par exemple. Dieu l'aurait-il puni ? On a répondu que oui. Eh bien, il en est de même quand vous le faites dans le cadre licite défini par Dieu. Eh bien, vous êtes rétribué en conséquence.
Et donc, même le cas inverse est aussi valable, parce qu'il semblerait que des fois, quand on a l'intention de commettre un acte bénéfique, mais bon, peut-être on se trompe. Et on,
s'il y a,
et
s'il
là
y a...
même, quelquefois, on est rétribué quand on se trompe, par pureté d'intention.
Oui, quand vous vous trompez réellement, ou bien quand vous avez eu l'intention de faire quelque chose que vous n'avez pas pu faire. C'est là que Dieu vous rétribue. Par exemple, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, à l'expédition de Tabouk, le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit: il y a des hommes qui sont restés à Médine, vous n'allez pas traverser un oued ou parcourir une zone sans que ces gens-là aient reçu, au même titre que vous, une rétribution. Habasahumul marad, c'est la maladie qui les a empêchés de venir. Ils avaient vraiment l'intention de venir avec vous, mais ils n'ont pas pu.
Oui.
Voilà. Et puis, toujours concernant l'intention, quand vous avez l'intention d'accomplir quelque chose de bien, si vous le faites, vous avez une action qui est multipliée par 10. Oui. Si vous ne le faites pas, vous avez tout de même cette action.
Voilà, donc,
et puis, la bonté divine...
On est gagnant à tous les coups.
Oui, à tous les coups avec Dieu. Ouais. Et la bonté divine veut que, si vous avez l'intention... On parle d'intention de faire quelque chose. Si vous avez l'intention de faire quelque chose de mal et que vous le faites, vous ne comptabilisez qu'une mauvaise action. Mais si par contre vous ne l'avez pas fait, vous comptabilisez une bonne action.
Très bien.
Donc ça fait partie de la largesse divine. C'est Dieu qui est un peu plus large avec nous.
Et qui rétribue.
Mais là aussi, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, dites-vous bien que l'intention joue un rôle prépondérant. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous peint une scène du jour de la rétribution, Yawm al-Jaza. Des gens vont se retrouver face à Dieu. Alors l'un, par exemple, est un savant et Dieu lui demande: pourquoi as-tu demandé la science? L'homme dira: pour te plaire, pour diffuser cette science. Et puis Dieu va lui répondre: non, tu ne l'as fait que pour que l'on dise de toi, c'est un érudit. C'est un lecteur du Coran. Pour celui qui sait...
Donc c'est pour des raisons ostentatoires.
Oui, ostentatoires, ria. Pour celui qui a fait plusieurs expéditions militaires: pourquoi as-tu fait cela? Je l'ai fait pour te plaire, oh Dieu. Non, tu ne l'as fait que pour que l'on dise il est courageux ou téméraire, etc.
Alors,
et donc,
oui,
quand on parle aussi d'ostentation, ria, dites-vous bien que avoir trop peur de l'ostentation ou faire trop cas de l'ostentation est une forme d'ostentation.
Oui, il faut rester dans le juste milieu.
Il faut toujours rester dans le juste milieu.
Alors, si Kamel, pour conclure, parce que bon, on arrive au terme de cette deuxième émission, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'on sous-valorise la niya et est-ce qu'on a quand même conscience de ce qu'elle implique par rapport au commun des musulmans?
La dérive que nous sommes en train de subir actuellement, c'est qu'il y a un retour en force vers la religion. Ceci est indéniable.
Mais...
Sauf que pour beaucoup, nous sommes dans un islam qui répond à des normes bien précises. Tu t'habilles de telle manière, il faut avoir tel aspect, il faut prier de telle manière, il faut s'asseoir comme ça, il faut se lever ainsi, etc. Alors que les premiers musulmans, l'islam est commencé justement dans le
cœur. Oui, puis ils n'avaient pas où s'asseoir, ils n'avaient pas de quoi s'habiller.
Mais
ils mangeaient de manière très frugale.
Il est vrai que le culte en lui-même obéit à des protocoles, à des procédures qui ont été clairement définies. Sauf que tout cela ne sert à rien si le cœur ne fait pas son travail. D'où l'importance de ce que nous appelons en langue arabe « tarbiya ruhiya ». Que moi j'appelle éducation spirituelle, que d'autres appelleront tasawwuf, que d'autres appelleront zuhd, etc. Donc il est vrai que c'est le geste, c'est l'acte qui compte, mais au-delà de cet acte, il y a un cœur qui doit s'y mettre lui aussi.
Donc au-delà du cœur et de la science, plutôt au-delà de la raison et de la science, le cœur est déterminant.
Absolument. Innama al-a'mal bi-niyyat. Et c'est là que cette fin. C'est ce que veut dire cette phrase.
Très bien, j'espère qu'on a quand même fait le tour de cette question et apporté quelques éclairages à nos amis auditeurs. Chers amis auditeurs, donc à la semaine prochaine. Bonne journée. Nous remercions notre ami Jimmy pour sa réalisation.